Il est 6h30 à Conakry et en temps universel 8h30 à Paris et vous êtes à l'écoute d'RFI.
RFI Matin.
L'actualité africaine avec vous, Vincent Dublange. Bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. À la une, ne pas oublier Mamadou Biloba et Fonike Mengue en Guinée. Un collectif d'avocats des deux militants guinéens enlevés il y a deux mois maintenant demande à la CEDEAO de s'exprimer sur le sujet, de mettre la pression sur la junte à Conakry. On entendra l'un des avocats. Un procès au Mali, il s'ouvre aujourd'hui dans une affaire d'abord classée sans suite il y a quelques années, mais dont les poursuites ont été relancées à l'arrivée des militaires au pouvoir. Accusation de surfacturation qui vise d'anciens cadres du régime IB. Maïdougouri au Nigeria, toujours sous les eaux, une semaine après la rupture du grand barrage près de la ville nigériane et le déferlement d'eau qui s'en est suivi, la situation humanitaire demeure critique. Le président Bola Tinubu s'est rendu sur place. Le championnat d'Afrique des Nations de foot 2025 se jouera bien au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. La CAF et son patron Patrick Motsepe l'ont confirmé, on va l'entendre dans ce journal. Et puis connaissez-vous le pondou? C'est une sauce feuille avec des épices faites à base de manioc. C'est de la RDC et on vous la présente en fin d'édition.
La CEDEAO doit-elle s'exprimer, voire prendre position au sujet des deux membres du FNDC arrêtés en Guinée?
Question posée, Nathalie, à laquelle répond dans la foulée l'entourage, les soutiens de Fonike Mengue et Mamadou Biloba, les deux membres du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, interpellés par les forces armées en juillet dernier à Conakry. Depuis, ni leur famille, ni leurs avocats n'ont eu de nouvelles. Et ce sont ces derniers, leurs avocats, qui se sont regroupés au sein d'un collectif qui interpelle donc ce matin les plus hautes instances de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Ils ont envoyé un courrier à la CEDEAO le 13 septembre au président de la commission de la CEDEAO, plus précisément. Ce courrier est resté sans réponse. Ils demandent donc, par la voix des ondes, à la CEDEAO de s'exprimer. Écoutez Maître Vincent Brengart, il estime que personne ne peut faire semblant et ignorer la disparition de Fonike Mengue et Mamadou Biloba.
Nous, aujourd'hui, nous sommes sidérés face au silence de la CEDEAO sur ce dossier, alors même que les deux activistes ont maintenant disparu depuis le 9 juillet dernier et que ça n'est pas suscité de réaction à la hauteur de la gravité des faits qui sont reprochés aux autorités guinéennes. Personne ne peut plus faire semblant parce qu'il y a un ensemble d'éléments qui mettent en exergue la responsabilité des autorités guinéennes et personne ne peut plus faire semblant parce que il est impensable de croire que les juridictions guinéennes vont aller jusqu'au bout des investigations les concernant. Mais on voit véritablement que cet enlèvement non seulement marque une atteinte considérable au droit de la société civile et que c'est une nouvelle confirmation qu'il n'y a pas véritablement de possibilité d'entrevoir de façon positive l'avenir démocratique de la Guinée. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous multiplions les différentes initiatives parce que nous avons toujours espoir qu'il soit toujours en vie, mais c'est une question qu'on ne se pose pas à l'heure actuelle pour pouvoir multiplier les initiatives, pour pouvoir faire en sorte que la pression sur les autorités guinéennes soit suffisante pour que tout soit fait pour permettre leur mise en liberté.
Maître Vincent Brengart, interrogé par Guillaume Thibault.
Au Mali, ouverture ce mardi d'un procès très attendu.
Celui qui concerne l'achat d'un avion présidentiel, des contrats d'équipement militaire aussi passés par le gouvernement. Deux affaires qui remontent à 2014 qui ont été rajoutées in extremis à la session spéciale de la Cour d'assises sur les crimes économiques et financiers. Elle s'est ouverte il y a deux mois à Bamako. Parmi les accusés, deux anciens ministres, Mamadou Camara, qui était à l'époque directeur de cabinet avec grande ministre de feu, le président Ibeka, et Boiré Fili Sissoko, ancienne ministre de l'économie et des finances. Les explications de David Bachet.
Classées sans suite en 2018, ces deux affaires qui portent sur plus de 130 milliards de francs CFA ont été relancées en 2020 par la justice malienne qui soupçonne des surfacturations et d'importants détournements. Certains accusés, politiques ou hommes d'affaires, ne sont pas au Mali et seront jugés par contumace. D'autres, et pas des moindres, sont attendus à la barre. L'ancien directeur de cabinet du président Ibeka, Mahamadou Camara, qui clame son innocence, aurait dû comparaître libre, sous contrôle judiciaire. Il avait accepté l'année dernière de payer une lourde caution. Mais il a finalement été incarcéré à nouveau il y a 10 jours. L'ancienne ministre de l'économie, Boiré Fili Sissoko, avait quant à elle refusé de payer. Emprisonnée depuis plus de 3 ans, elle ne cesse de réclamer d'être jugée pour laver son honneur. Les chefs d'inculpation retenus à leur encontre sont corruption, trafic d'influence, favorisation, favoritisme, atteinte au bien public ou encore faux et usage de faux. Grand absent de ce procès, Soumeilou Boubey Maïga, ancien Premier ministre et à l'époque des faits ministre de la Défense, mort en détention il y a 2 ans et demi. Les autorités maliennes de transition s'étaient opposées à son évacuation sanitaire.
Au moins 8 personnes tuées, dont 3 enfants hier dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel à Freetown, en Sierra Leone. Les opérations de sauvetage se poursuivent à la recherche d'éventuels survivants, toujours sous les décombres.
Au Nigeria, il y a une semaine tout juste, la ville de Maïdougouri était ravagée par des inondations.
Suite à la rupture de ce barrage au sud de la capitale de l'État de Borno, dans le nord du Nigeria, la catastrophe a fait, selon le dernier bilan, une 40aine de morts, plusieurs centaines de milliers de déplacés. Hier, le président nigérian s'est rendu sur place pour remercier les autorités locales, les secouristes, les humanitaires et témoigner son soutien, bien sûr, aux populations. Une semaine donc après le drame, la situation reste critique dans la ville de Maïdougouri, dans ses alentours aussi. C'est ce que nous dit ce matin Trond Jensen. Il est le chef de l'OCHA, le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Nigeria.
La moitié de la ville est toujours touchée. À cause des crues, il est encore difficile de se déplacer. Certains ponts de la ville ont été endommagés ou détruits. Et actuellement, nous accueillons plus de 300 000 personnes dans des logements temporaires dans 30 camps autour de la ville. Nous sommes extrêmement préoccupés par la surpopulation dans ces installations et par le risque d'éventuelles épidémies. Ce que nous essayons de faire avec le gouvernement, c'est de fournir à ces gens les choses dont ils ont le plus besoin, comme des aliments cuits, l'accès à l'eau potable, l'accès aux services sanitaires et la protection pour les enfants non accompagnés. Un grand nombre de personnes ont été impactées par ces inondations. Les autorités locales disent que jusqu'à 1 million de personnes ont été touchées, d'une façon ou d'une autre.
Un propos recueilli par Pierre Firsion.
Ils exigent un audit du fichier électoral à moins de 3 mois de la présidentielle au Ghana.
Oui, les militants du parti d'opposition, le NDC, de l'ancien chef d'État ghanéen, à nouveau candidat John Mahama. Ils appellent aujourd'hui leurs partisans à se mobiliser dans tout le pays. La présidentielle, ce sera le 7 décembre au Ghana, quasiment 2 mois avant le 6 octobre en Tunisie, avec une campagne qui a débuté ce week-end. 3 candidats sont toujours sur le carreau, interdits de concourir par l'instance électorale, malgré plusieurs décisions de justice en leur faveur. Restent donc 3 candidats, dont le sortant, Kais Saied. L'un de ses 2 concurrents est par ailleurs en prison en ce moment. Tout cela fait donc une drôle de campagne. RFI Tunis, Amira Sulem.
Le principal intéressé n'était pas là. Placé en détention pour faux parrainage présumé, Ayesh Izemel, un industriel d'inspiration libérale, a dû passer le flambeau à son équipe de campagne.
Nous espérons que le prisonnier Ayesh Izemel sera libéré le plus vite possible. Il veut que des élections se fassent de façon pacifique. Les Tunisiens n'ont aucun autre choix donc que la voie pacifique et les élections.
Une demande qui intervient alors que le climat politique se tend en Tunisie. Hier, Kais Saied, dans un manifeste, jugé clivant, voire violent par plusieurs observateurs, a pourfendu, sans les citer clairement, les corrompus, criminels, coupables selon lui de troubles et de trahison. Un vocabulaire qu'il réserve habituellement à ses opposants. Pendant ce temps, le 3e candidat, Zuhair Marzewi, nationaliste arabe, préfère s'afficher sur le terrain. En déplacement dans la région des Hérités du Kef, il s'est fait filmer par ses équipes de campagne au contact de concitoyens. Lui qui a longtemps soutenu Kais Saied le tacle désormais.
On ne reste pas sur sa chaise pendant 3 ans ou plus à dire « Oh, il y a de la corruption, des lobbies, etc. » 1 an à dire ça, 6 mois, ok, ça passe. Mais des années, ça n'a plus de sens.
Zuhair Marzewi a appelé à ce que des débats puissent avoir lieu entre candidats afin que chacun puisse présenter ses idées aux Tunisiens. Avec un prétendant à Carthage en prison, cette demande reste difficile à mettre en place à ce stade. Amira Sulem, Tunis, RFI.
Il était à Nairobi hier, le patron de la Confédération africaine de foot, la CAF.
Le Sud-Africain Patrick Motsepe a visité les stades de Kasarani, de Niayo, celui en construction également de Talanta. Il a ensuite participé au comité exécutif de la CAF et en a profité pour révéler le calendrier du futur CHAN. Le CHAN, c'est le championnat d'Afrique des Nations, une sorte de CAN des joueurs locaux. Il se tiendra du 1er au 28 février prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. 3 pays qui sont par ailleurs désignés pour accueillir la CAN 2027. Patrick Motsepe tient à rappeler que ce CHAN est aussi important que les autres compétitions.
Par le passé, certains pays faisaient le choix de ne pas participer au CHAN. Nous avons changé cela, parce qu'on ne peut pas dire « j'aime cette compétition, mais pas celle-là ». Il faut participer à toutes, même si les joueurs qui évoluent hors du continent ne sont pas là. C'est dans ces moments-là que nous devons permettre à nos joueurs africains les plus talentueux de dire à leurs entraîneurs « peut-être que je ne joue pas en Europe, mais je suis quand même aussi bon que n'importe quel joueur du monde ». Donc c'est aussi pour cela que j'ai augmenté la dotation de la récompense. Ces joueurs du CHAN sont les futurs vainqueurs de la CAN, et nous avons toujours déclaré ouvertement qu'une partie de notre plan réside dans la confiance que nous avons qu'un jour, un pays africain remportera la Coupe du Monde.
Et cette 8e édition du CHAN, en février prochain, sera destinée aux footballeurs africains qui évoluent sur le continent africain, avec une restriction levée par rapport aux autres CHAN, celle de jouer dans le championnat du pays dont on défend les couleurs.
Le dossier de cette édition, Vincent, à Kisangani, dans le centre nord de la RDC. On parle de cette nouvelle technique culinaire autour du manioc.
Le manioc, c'est un légume racine bien connu, tellement apprécié en RDC qu'on le prépare à toutes les sauces, à commencer par celle-ci que l'on vous présente. Si vous n'habitez pas à Kisangani ou dans la province de la Tchopo, en RDC, le pandou, c'est une sauce feuille mélangée à plusieurs épices. À Kisangani, les machines à pandou, fabriquées localement, ont remplacé les traditionnels mortiers en bois pour moudre le plus rapidement possible le plus de feuilles de manioc. Joseph Kaango a baladé son micro dans les rues de Kisangani et ses papilles.
Au croisement de deux artères très fréquentées de Kisangani, Antoinette, propriétaire d'un restaurant, est venue faire broyer ses légumes à la machine à pandou. Tous les jours, c'est plus de 15 bottes de feuilles de manioc qui sont consommées par ses clients.
Après avoir nettoyé les feuilles de manioc avec de l'eau chaude, nous venons ici pour les broyer à la machine. Auparavant, on le faisait avec le mortier, c'était fatigant et lent. Mais avec la machine, c'est très rapide.
Isaac Saïdi est le propriétaire de la machine à broyer. Il a jusqu'à 20 clients par jour.
À Kisangani, le pondou est très consommé. C'est pourquoi on a fabriqué ces machines qui sont un peu partout pour faciliter le broyage. Le prix dépend de la quantité des feuilles de manioc. J'ai beaucoup de clients. Les restaurants et les ménages sont nombreux à cet endroit. Je fais jusqu'à 15 ou 20 000 francs de recettes par jour.
Souvent, je touche des 20 000 et 15 000.
Le broyage fini, Antoinette retourne à la cuisine de son restaurant. Après 2 heures de cuisson, la sauce feuille est prête et servie. Chamani est un des clients fidèles.
Le pondou est consommé par tous les Congolais, riches ou pauvres. C'est un légume bio. Moi, je mange le pondou tous les jours que Dieu a fait. Ici, au restaurant, tous les plats se font accompagner de pondou.
Accompagné du riz ou du foufou, le pondou demeure et encore pour longtemps le légume le plus apprécié à Kisangani. Joseph Kaongo, Kisangani, RFI.
Voilà, le pondou fait à partir de feuilles de manioc. Comment on peut expliquer cette très forte consommation, on vient de l'entendre, des feuilles de manioc à Kisangani en RDC? Quels sont les bienfaits plus largement de ce légume et de ces feuilles appréciées en RDC? Écoutez le nutritionniste de la division de la santé de la province de la Tchopo, Dominique Sekouma. Pour lui, les feuilles de manioc sont riches en vitamines et ont donc des bienfaits pour l'organisme.
Les feuilles de manioc sont disponibles à toutes les saisons à Kisangani. Les feuilles de manioc peuvent être achetées à moindre coût. La population accepte de consommer ça. Même ça y ajouter lors de la préparation, la viande ou les poissons. Pour l'importance nutritionnelle, les feuilles de manioc, comme tous les légumes, ce sont les aliments consommés pour protéger le corps. Partant des nutriments. Le feuille de manioc est riche en vitamine A et en sels minéraux. Ici, nous pouvons mettre un accent particulier sur le fer. Le fer qui augmente le taux de l'hémoglobine. Donc, c'est un élément très important, surtout chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes et pourquoi pas les enfants à l'âge de croissance. Le feuille de manioc est également riche en fibres.
Dominique Sekouma, de la division santé de la province de la Tchopo, interrogé par Joseph Kaongo.
C'était le journal de Vincent Dublange. À tout à l'heure.